Grace James, conte japonais, reflets et réflexions, traduit et lu par Régine. Il y a bien longtemps, vivait à une journée de marche de la ville de Kyoto, un homme d'esprit et de manière simple, mais de bonne famille. Sa femme, paix à son âme, était morte depuis de nombreuses années. Et le brave homme vivait dans une grande paix et une grande tranquillité avec son fils unique. Il se tenait à l'écart des femmes et ne savait rien de leurs conquêtes ou de leurs tracasseries. Ils avaient des serviteurs qui étaient bons et dévoués dans leur maison et ne voyaient jamais une paire de manches longues ou un obi écarlate du matin au soir. En réalité, ils étaient heureux comme le jour. Parfois, ils travaillaient dans les rizières. D'autres jours, ils allaient à la pêche. Au printemps, ils allaient admirer les fleurs de cerisier ou de prunier. Et plus tard, dans la saison, ils partaient voir les iris, les pivoines ou les lotus, selon les floraisons. Ils buvaient alors un peu de saké. Ils enroulaient leurs tenugi bleus et blancs autour de leur tête et étaient aussi joyeux que possible, car il n'y avait personne pour leur dire non ou pour les contrarier dans ce qu'ils voulaient faire. Souvent, ils rentraient à la maison à l'allure des lanternes. Ils portaient leurs plus vieux vêtements et prenaient leur repas quand ça leur faisait plaisir. Mais les plaisirs de la vie sont éphémères. C'est bien dommage. Le père sentit bientôt la vieillesse s'emparer de lui. Un soir, alors qu'il était assis en train de fumer et de se chauffer les mains au foyer, il dit « Mon garçon, il est grand temps que tu te maries. »« Que Dieu nous en préserve !» s'écria le jeune homme. « Père, qu'est-ce qui te fait dire des choses aussi terribles? Ou bien tu plaisantes? Tu dois plaisanter, non ?»«
Je ne plaisante pas du tout, » répondit le père. « Je n'ai jamais dit une parole plus vraie, et tu le sauras bien assez tôt. »«
Mais, père, j'ai une peur mortelle des femmes. » »«
Et moi, n'est-ce pas la même chose ?» reprit le père. « Je suis désolée pour toi, mon garçon. »«
Alors, pourquoi dois-je me marier ?» dit le fils.
« La nature veut que je meure bientôt. Je suis vieux et tu auras besoin d'une femme pour prendre soin de toi. »
En entendant cela, le jeune homme eut les yeux pleins de larmes, car il avait le cœur tendre. Mais il se contenta de dire « Je peux très bien me débrouiller tout seul. »
C'est justement ce que tu ne sais pas faire et ce que tu ne peux pas faire, dit son père. En fin de compte, on trouva une femme pour le jeune homme. Elle était jeune et jolie comme une image. Elle s'appelait Tassel ou Fusa. Après avoir bu ensemble 3 fois 3, et être devenus mari et femme, ils restèrent seuls, le jeune homme regardant attentivement la jeune fille. Il ne savait pas du tout quoi lui dire. Il prit un bout de sa manche et le caressa de la main. Mais il ne disait rien et avait l'air tout à fait stupide. La jeune fille rougit, pâlit, rougit encore, et finit par fondre en larmes.
« Honorable demoiselle Tassel, ne faites pas cela pour l'amour du ciel !» dit alors le jeune homme.
« Je suppose que vous ne m'aimez pas !» sanglota la jeune fille. « Je suppose que vous ne me trouvez pas jolie du tout !»«
Ma chère, » dit-il, « vous êtes plus belle que la fleur de haricot dans le champ !» plus belle que la petite boule bantam dans la cour de la ferme, et plus belle encore que la carpe rose dans l'étang.
J'espère que tu seras heureuse avec mon père et moi. » Elle rit un peu, le regarda et s'essuya les yeux. « Mets donc un autre akama, » dit-elle, « et donne-moi celui-là. Il y a un grand trou dedans. J'ai remarqué cela pendant la cérémonie de notre mariage. » Après tout, ce n'était pas un mauvais début, et en prenant les choses l'une après l'autre, ils s'entendirent assez bien. Même si, bien sûr, les choses n'étaient plus ce qu'elles étaient à l'époque bénie où le jeune homme et son père n'avaient pas encore posé les yeux sur une paire de manches longues ou sur un obi écarlate du matin au soir. Le vieil homme finit par mourir, comme le veut la nature. On dit qu'il a fait une très bonne fin et qu'il a laissé dans son coffre-fort suffisamment pour que son fils devienne l'homme le plus riche du pays. Mais ce n'était pas une consolation pour le pauvre jeune homme qui pleurait son père de tout son cœur. Jour et nuit, il se recueillait devant le tombeau. Il dormait peu. Il ne se reposait pas du tout. Et il ne faisait guère attention à sa femme, Mademoiselle Tassel, à ses caprices, ni même aux délicieux repas et aux mets délicats qu'elle lui présentait. Il devint maigre et pâle, et elle, la pauvre jeune femme, ne savait plus que faire pour lui. Un jour, elle lui dit, « Mon cher, que dirais-tu d'aller un peu à Kyoto ?»« Et pourquoi je devrais faire ça ?» demanda-t-il. Elle avait sur le bout de la langue l'idée de répondre « Pour t'amuser !» Mais elle vit qu'il ne fallait pas dire cela. « Oh » dit-elle, « c'est une sorte de devoir. On dit que tout homme qui aime son pays devrait voir Kyoto. Et d'ailleurs, tu pourrais jeter un coup d'œil sur la mode actuelle, afin de me dire à quoi elle ressemble quand tu reviendras chez nous. Mes affaires, dit-elle, mes vêtements, sont tristement en retard sur ce qu'on porte maintenant. J'aimerais bien savoir comment les gens sont habillés. Mais je n'ai pas envie d'aller à Kyoto, dit le jeune homme. Et si je le faisais, ce n'est pas la bonne époque, parce qu'il faut planter le riz. Alors, il n'y a rien à faire. N'en parlons plus. » Au bout de 2 jours, il demande à sa femme de sortir son meilleur akama et son haori et de préparer son bento pour le voyage. « Je pense aller à Kyoto, » lui dit-il. « Je suis surprise, » dit son épouse. « Qu'est-ce qui t'a donné cette idée ?» si je puis me permettre de te le demander. Eh bien, j'ai pensé que c'était une sorte de devoir, répondit le jeune homme. Oh, c'est vrai, répondit Madame Tassel à cela. Et elle ne dit rien d'autre, car elle avait quelques grains de bon sens. Le lendemain matin, elle prépara tout pour que son mari puisse partir de bonne heure pour Kyoto. Et puis, elle s'occupa du ménage de la maison, comme tous les jours. Le jeune homme se mit donc en route, avec la tête un peu plus légère. Il arriva bientôt à Kyoto. Sans doute a-t-il vu beaucoup de choses qui l'ont émerveillé. Il s'est promené parmi les temples et les palais. Il a vu des châteaux et des jardins. Il a parcouru de belles rues commerçantes, regardant tout autour de lui, les yeux grands ouverts et la bouche aussi, car c'était une âme simple et il découvrait tant de choses qu'il n'avait jamais vues. Un jour, il tomba sur une boutique remplie de miroirs métalliques qui scintillaient au soleil. « Oh, les jolies lunes d'argent !» se dit le jeune homme simple. Il osa quand même s'approcher, et il prit un miroir dans sa main. L'instant d'après, il devint blanc comme du riz et s'assit sur le siège de la porte de la boutique, tenant toujours le miroir à la main, et, en se regardant, il pensa se trouver mal.
« Pourquoi, père ? » dit-il. « Comment es-tu venu ici ? Tu n'es donc pas mort ? Que les dieux en soient loués ! J'aurais pu jurer que... Mais peu importe, puisque tu es vivant et en bonne santé. C'est vrai, tu es encore un peu pâle, mais comme tu as l'air jeune !»«
Tu remues les lèvres, mon père, et tu sembles parler. Mais je ne t'entends pas. Tu vas revenir à la maison avec moi, et tu vivras avec nous, comme tu le faisais autrefois. Tu souris. Mais oui, tu souris. Ah, comme c'est bien !»«
De beaux miroirs, mon jeune monsieur !» dit le marchand en sortant sur le pas de sa boutique. « Les meilleurs que l'on puisse faire, et c'est l'un des meilleurs du lot que vous avez là. Je vois que vous vous y connaissez. »
Le jeune homme serra son miroir contre lui et resta assis à le regarder stupidement, sans rien dire. Il tremblait.
« Combien ? Combien ? » murmura-t-il. « Est-il à vendre ? »
Il avait peur qu'on lui arrache son père.
« C'est à vendre, en effet, très noble monsieur, » répliqua le marchand, « et le prix est une bagatelle, seulement 2 dollars. C'est presque en faire cadeau, à ce prix-là, vous le comprenez bien.
Debout, seulement debout.
Que les dieux soient loués pour leur clémence, » s'écria le jeune homme heureux.
Il sourit d'une oreille à l'autre, et en un clin d'œil, il sortit la bourse de sa ceinture et l'argent de sa bourse.
Le marchand regrettait un petit peu de ne pas avoir demandé 3 ou même 5 dollars. Il fit tout de même bonne figure, emballa le miroir dans une belle boîte blanche et l'attacha avec des cordelettes vertes.
« Père, » dit le jeune homme lorsqu'il sortit du magasin, « avant de rentrer à la maison, nous devons acheter des petits cadeaux pour la jeune femme qui est à la maison. Ma femme, tu sais. »
Il n'aurait jamais pu dire pourquoi, mais une fois rentré chez lui, le jeune mari n'a jamais rien dit à Madame Tassel sur le fait qu'il avait acheté son père pour 2 dollars dans un magasin à Kyoto. Et c'est là qu'il a commis une erreur, comme la suite va nous le dire. Elle était ravie, sa jeune femme, comme on peut l'être de recevoir des nouvelles épingles à cheveux en corail et de son nouvel hobby de Kyoto. Et elle se disait, « Il a bien fait de faire ce voyage. Je suis heureuse de le voir si bien et si heureux. Mais je dois dire qu'il semble être vite remis du chagrin qu'il avait. Mais après tout, les hommes sont comme des enfants. » Quant à son mari, à l'insu de sa femme, il prit un peu de soie verte dans sa boîte à couture et l'étala dans l'armoire du tokonoma. Il plaça le miroir dans sa boîte de bois blanc avec la soie verte qu'il avait pris dans la boîte à couture de sa femme. Tous les matins, tôt, et tous les soirs tard, il se rendait dans l'armoire du tokonoma et s'entretenait avec son père. Ils eurent beaucoup de discussions et de rires joyeux, et le fils était le jeune homme le plus heureux de toute la contrée, car c'était un homme simple et brave, mais un peu naïf. Mais Madame Tassel avait l'œil et l'oreille très fins, et elle ne tarda pas à remarquer les nouvelles habitudes de son mari. « Pourquoi va-t-il si souvent au tokonoma ? » se demanda-t-elle. « Et qu'est-ce qu'il y trouve, là ? Je serais bien contente de le savoir. » N'étant pas du genre à souffrir en silence, elle ne tarda pas à poser ces mêmes questions à son mari. Alors il lui dit la vérité, le bon jeune homme.
Et maintenant que mon cher vieux père est de retour à la maison, je suis aussi heureux que le jour est long. » «
Ah bon ?
Et seulement 2 dollars, c'était une bonne affaire. Mais c'est un peu une chose étrange, non ?
Pas cher, en effet, dit-elle.
Et oui, un peu étrange, peut-être.
Et pourquoi, si je puis me permettre de te le demander, tu ne m'as rien dit de tout cela au début ?
Le jeune homme rougit. En effet, je ne peux pas tout te dire, ma chère. Je suis désolée, mais en fait, je n'en sais rien. Et il s'en alla à son travail.
Dès qu'il eut le dos tourné, Madame Tassel se rendit au Tokonoma, presque en courant, et ouvrit les portes avec fracas.
« Ma soie verte pour les doublures de mes manches !» s'écria-t-elle aussitôt.
« Mais je ne vois pas de vieux père ici, seulement une boîte en bois blanc. Qu'est-ce que mon mari peut bien mettre dans cette boîte ?»
Et elle ouvrit la boîte en défaisant les cordelettes vertes, bien vite.
En ouvrant la boîte,
« Quelle drôle de chose plate et brillante !» dit-elle,
et prenant le miroir, elle s'y regarda.
Pendant un moment, surprise, elle ne dit rien. Mais bientôt, des larmes de colère et de jalousie se mirent à couler de ses jolis yeux, et son visage rougit du front au menton.
« Une femme ! » s'écria-t-elle. « Une femme ! Voilà donc son secret ! Il garde une femme dans cette armoire, une femme très jeune et très jolie.
Non, pas jolie du tout, mais elle se croit-elle ? Une danseuse de Kyoto, j'en suis sûre. De mauvais caractère aussi, son visage est écarlate. Et oh, comme elle fronce les sourcils, la méchante petite peste ! Ah ! Qui aurait pu penser cela de lui ? Ah ! Je suis une misérable personne ! Et dire que j'ai cuisiné son daikon et tous ses repas et raccommodé son hakama au moins 100 fois ! Oh, oh, oh !
Sur ce, elle jeta le miroir dans la boîte et ferma la porte de l'armoire. Elle se jeta aussi sur les tatamis et pleura et sanglota comme si son cœur allait se briser. Sur ces entrefaites, son mari arriva.
« J'ai cassé la lanière de ma sandale, dit-il, et je suis venu pour...
Et qu'est-ce qu'il y a ?» Et en un instant, il était à genoux, près de sa femme, faisant ce qu'il pouvait pour la réconforter et pour relever son visage du sol où elle l'avait posé.
« Mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?»
Elle répondit très violemment à travers ses sanglots.
« Je veux rentrer à la maison !»«
Mais ma chérie, tu es chez toi, avec ton mari. »«
Joli mari, » dit-elle, « et jolies affaires, avec une femme dans l'armoire, une femme détestable, laide, qui se croit belle et qui en plus a mes manches vertes avec elle. »
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de femme et de manche ?
Je suis sûre que tu ne refuserais pas à ce pauvre vieux père ce petit bout de chiffon vert pour son lit.
Viens, ma chérie, je vais t'acheter 20 doublures de manche. » À ce moment-là, elle se leva d'un bond et se mit à sauter de rage.
« Vieux père ! Vieux père ! Vieux père ! » cria-t-elle. « Suis-je une idiote ou une enfant ? J'ai vu cette femme de mes propres yeux !»
Le pauvre jeune homme ne savait pas s'il était tombé sur la tête ou s'il était debout sur ses pieds. « Est-il possible que mon père soit parti ? » dit-il, et il prit le miroir du Tokonoma.
« Mais rien n'est changé ! C'est toujours le même vieux père que j'ai acheté pour 2 dollars.
« Père, tu sembles inquiet. »
« Non ? Alors, souris, comme moi. »«
Ah, tu souris, voilà, c'est bien. » Madame Tassel
arriva comme une petite furie et lui arracha le miroir des mains. Elle n'y jeta qu'un coup d'œil et le lança à l'autre bout de la pièce. Il fit un tel bruit contre les boiseries que les domestiques et les voisins se précipitèrent pour voir ce qui se passait. « C'est mon père, » dit le jeune homme. « Je l'ai acheté à Kyoto pour 2 dollars. Il garde une femme dans l'armoire qui a volé mes doublures de manches vertes !» sanglota la jeune femme. Après cela, il y eut un grand remue-ménage. Certains voisins prirent part pour le jeune homme et d'autres prirent part pour la jeune femme, avec un tapage et un bruit comme il n'y en avait jamais eu dans le quartier. Mais personne ne put régler la question, et aucun d'entre eux ne voulut se regarder dans le miroir parce qu'il disait qu'il était ensorcelé. Tout cela aurait pu continuer de cette manière jusqu'à la fin des temps. Mais une des personnes dit « Allons demander à la mère abbesse du couvent, car c'est une femme sage. » Et ils allèrent tous ensemble faire ce qu'ils auraient pu faire plus tôt, s'ils y avaient pensé. La mère abbesse était une femme pieuse, à la tête d'un couvent de saintes nonnes. Elle était la grande spécialiste des prières, des méditations et des mortifications de la chair. Mais elle n'en était pas moins intelligente et sage en ce qui concerne des affaires humaines. On lui apporta le miroir. Elle le tint dans ses mains et le regarda longuement. Enfin, elle prit la parole. « Cette pauvre femme, » dit-elle, en touchant le miroir, « car il est clair comme le jour que c'est une femme. Cette pauvre femme a été bien malheureuse dans sa vie. Elle a causé beaucoup de tourments dans une maison qui était tranquille. Alors elle est venue dans ce couvent. Elle a prononcé des vœux. Elle s'est rasé la tête et ainsi elle est devenue mère abbesse. Elle est donc à sa place ici. Je vais la garder. Je l'instruirai dans les prières et les méditations. Rentrez chez vous, mes enfants. Pardonnez et oubliez. Soyez amis et aimez-vous. » Alors tous les gens dirent « La mère abbesse est une femme intelligente et sage. » Ainsi, le miroir resta au couvent. Madame Tassel et son mari rentrèrent chez eux, main dans la main. « J'avais donc raison, tu vois, après tout, » dit-elle à son mari. « Oui, ma chère, » dit le jeune homme, simple et naïf, « bien sûr. Mais je me demande comment mon père va se débrouiller dans le Saint Couvent, car il n'a jamais été très porté sur la religion. » Fin du conte Reflets et réflexions de Grace James.